carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le sculpteur Gérard Lanvin a été élu en 1990 au fauteuil de Jean Carton à l'Académie des Beaux-Arts. Après des études d'histoire de l'art à l'Université de Dijon, il intègre l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris durant la Deuxième Guerre mondiale en 1941. Il fréquente ensuite l'Académie Ranson, où il devient l'élève d'Emmanuel Horiscott et de Paul Couturier, et il participe pour la première fois au Salon des Tuileries en 1944. Juste après la guerre, avec le médailleur Jacques Yensès, qui lui a donné sa toute première formation artistique, ils réalisent ensemble le monument des déportés. Durant les années 50, il se consacre à de nombreux travaux de décor, en publicité, et poursuit parallèlement son œuvre de sculpteur et reçoit le prix Fénéon en 1953. Il rencontre alors Brancusi, Germaine Richier, Giacometti, Carton, et expose surtout au musée Grimaldi à Antibes et à la galerie Claude Bernard à Paris. Dans les années 60, il travaille à l'ornement et à la restauration d'œuvres sculptées. On lui doit ainsi de grandes campagnes de restauration pour les monuments historiques de Paris, la Bourse, l'Opéra, l'Assemblée nationale, l'Institut de France, le Sénat et la Cour carrée du Louvre. Dans les années 70, il réalise de nombreuses médailles pour l'Hôtel de la Monnaie et enseigne en même temps à l'École supérieure des arts décoratifs. Gérard Lanvin, dont il n'existe pas de catalogue raisonné des œuvres, nous a ouvert les portes de son atelier dans le 14e arrondissement à Paris. Sous nos yeux, des dizaines de sculptures en plâtre sont matériaux de prédilection et des stèles de toutes sortes. Dans cet atelier tout en hauteur, dans cet univers blanc, il a commenté pour nous les pièces qui s'offraient à notre regard, y compris tout en haut, sur la mezzanine. Retrouvons Gérard Lanvin dans son atelier.
C'est une sorte de vivier où je garde trop de choses. Dans la mesure où beaucoup de choses sont le pire, si j'ose dire, et le meilleur, mais qui voisinent souvent, mais ont pour raison d'être là, qu'il arrive que je reprenne des choses anciennes, que je leur fais un sort quand elles ne me satisfont pas aujourd'hui.
Vous revenez dessus?
Je reviens dessus, oui. À tort ou à raison, que pas toujours, c'est pas systématique. Je suis d'abord, je crois, un modeleur à l'origine. J'ai travaillé la terre, surtout, oui. Et puis ensuite, la terre, une fois satisfaisante, est moulée. Après quoi, on a des maquettes en plâtre. Et la plupart des choses que vous voyez sont donc des maquettes, ou du moins tiennent lieu de maquettes, ou ont tenu lieu de maquettes, pour être ensuite soit agrandies, soit coulées en bronze, ou traduites en pierre, voire en quelquefois en marbre aussi. Je n'ai pas ici, très peu, mais j'en ai chez moi, quelques marbres. C'est que je n'avais jamais, a priori, pensé faire une stèle. Ce n'était pas un a priori, en tout cas. Mais il y a pas mal d'années, ayant fait pas mal de médailles pour la Monnaie, dont j'ai ici d'ailleurs les maquettes, mais j'en ai plus du tout. Elles ont disparu, ou elles sont données, on ne les trouve plus, elles ne sont plus à la Monnaie. Ou alors il faut les faire refaire dans des conditions souvent compliquées, difficiles, très coûteuses. Mais ces maquettes ont été faites à une époque, dans les années 70-80 surtout, où on faisait des maquettes, qu'il fallait livrer une maquette en plâtre, qui devait avoir environ 22-23 cm de diamètre. Ce n'était pas un centimètre près, mais ça permettait de voir clair, de voir comment ça se présente, d'en juger aussi bien que possible. Et après quoi, on les réduisait. Il y avait une réduction mécanique, si vous voulez, qui se faisait d'ailleurs à la Monnaie. Et la réduction, c'est comme l'agrandissement. Ça se fait, ça se pratique. Ici même, en face, un de mes voisins n'est plus là maintenant, mais qui a été longtemps un agrandisseur, voire un réducteur, mais surtout un agrandisseur, qui travaillait pour beaucoup de monde. Il n'était pas le seul, mais il était un des meilleurs sur Paris. Il a disparu, il est mort, mais son fils n'a pas continué longtemps. De sorte que je voyais passer Miro, César et bien d'autres, voire des étrangers aussi. Et tout ça était très intéressant. Je me souviens que Miro avait été venu avec un petit bout de miche de pain qu'il avait sculpté vaguement dans vaguement ou pas, enfin, qu'il avait travaillé à sa façon. Et il avait demandé à mon voisin d'agrandir ça. Alors, on ne peut pas agrandir plus de 3 ou 4 fois sans que ça devienne un peu mou, que ça perde ses qualités. Et c'est comme ça que par étapes, on peut quelquefois obtenir de très grandes choses. Et ça se pratiquait comme ça se pratique encore. Rodin a beaucoup pratiqué ça. Il est même un des premiers à l'avoir fait de façon presque systématique et telle qu'une partie de son œuvre est le produit de sculptures faites d'abord dans des dimensions relativement réduites et ensuite par étapes agrandies. Et la Porte de l'Enfer en particulier, qui est faite d'une multitude de sujets, comme vous le savez, il a commencé par le penseur qui se trouve être au-dessus de la porte et puis toutes sortes de sujets qui courent sur la porte ont été agrandis par la suite, certains, beaucoup en tout cas, d'où des sculptures qui sont devenues autonomes, qui sont devenues ben, comme le penseur, puisque j'en parlais. Le penseur tel qu'il existe aujourd'hui, il a au moins 3-4 mètres de haut, enfin, c'est un gros morceau. Si on le voit dehors, ça ne paraît pas tellement, mais si on le voit dans un intérieur, c'est très frappant. C'est le cas du baiser, enfin de toutes les sculptures les plus connues ou les plus populaires, on va avoir raison. Et puis, il avait pour lui un très bon agrandisseur qui ne travaillait que pour lui ou presque, c'était merveilleux, qui le connaissait très bien, qui faisait exactement ce qu'il voulait. Il travaillait, je crois, en terre, parce qu'on peut aussi agrandir en terre, comme en plâtre mort, mais qu'il faut remouler ensuite, mais qui permet de retravailler un peu, plus ou moins. C'est pas mal quand on s'appelle Rodin, mais ça ne peut pas être fait livrer à n'importe qui, ce genre de truc, parce qu'il est très surprenant de voir une forme assez peu réduite, qui tient dans la main, ou voire 50 cm de haut, et de l'avoir agrandi à 3-4 mètres. Ça vaut être exactement la même chose, théoriquement, c'est autre chose. Ça donne une autre chose. C'est très mystérieux, d'ailleurs.
Vous avez pratiqué beaucoup, ça ?
Alors, je n'ai pas pratiqué ça beaucoup, hélas, dans la mesure où c'est très coûteux. Alors, je l'ai fait faire pour des petites choses. Bon, il y a eu les médailles, bien sûr, mais pour d'autres choses, c'est le cas de certaines choses que je pourrais vous montrer. Ah ben, tenez, il y a là une partie, vous voyez, de cette stèle, dont la partie du haut est née d'abord d'une sculpture qui est grande comme ma main, enfin, à peu près.
Ah oui, alors que là, elle fait...
Ça donne un mètre de haut. D'ailleurs, c'est tout à fait différent, c'était placé autrement. Mais en fait, la plupart de mes sculptures, ici, au milieu, de certaines du moins, pas mal, sont faites telles quelles. Mais c'est déjà pas mal comme dimension.
Donc là, ça revient à celle-là, qui est assez connue.
Elle est ce qu'elle est, ça n'a jamais été coulé en bronze. Ça pourrait l'être, ça s'est fait pour ça d'ailleurs. Vous parlez de cette...
Moi, je parlais de celle qui est juste derrière.
Vous avez raison de remarquer ça, parce que c'est la première stèle que j'ai faite. Et c'est justement en liaison avec les médailles que je faisais à l'époque. Je vous parlais d'un médaille qui devait avoir environ 22-23 cm
voilà,
de diamètre.
Ouais.
Alors j'avais fait, tout à fait dans la seule idée d'avoir le diamètre en question et de travailler dedans, de voir ce que je ferais à partir de là. J'avais fait une espèce de cadre, comme ça, en plâtre. Et puis, un beau jour, je l'ai gardé tel quel, parce qu'il est mal éclairé, malheureusement. Mais il était pas mal venu, c'était assez bien fichu. Surtout avec cet appui qui est venu par la suite. Je ne sais pas si je l'avais déjà ou s'il est venu. J'ai trouvé que ça formait une stèle telle quelle. Ça a été un peu la première. Elle a été coulée en bronze. J'ai des amis qui voulaient la voir. Malheureusement, je ne l'ai pas.
Elle est partie.
Alors, j'ai des photos. Mais si vous voulez, ça a été la première stèle, en quelque sorte. Et je me suis dit, tiens, l'idée de la stèle, pourquoi pas ? Et je me suis mis à en faire comme ça, plusieurs. Toutes différentes, d'ailleurs, très différentes.
C'était dans les années 50, ça ?
Non, un peu après. Alors, si vous voulez, une stèle, pourquoi pas ? Ceci peut en être une, si on veut.
Alors, qu'est-ce que c'est une stèle pour vous, monsieur Varin ?
Pour moi, une stèle, c'est ce qu'on voit au Louvre. Par exemple, il y en a une ou deux qui sont des merveilles. Ben, une stèle, c'est aussi bien ce qu'on voit dans un cimetière. Une stèle, je ne sais pas comment dire, c'est une sorte d'objet, en quelque sorte, qui devrait être un peu magique, qui devrait évoquer quelque chose autour duquel on peut, en principe, de façon inépuisable, rêver, si vous voulez. Mais en réalité, une partie de tout ce qui a été fait par la suite et qui correspond un peu à des stèles, il y en a pas mal. Elles sont toutes différentes, d'ailleurs. En voilà une, par exemple.
Elle a un nom ? pour qu'on puisse les
pour
identifier.
Moi, les noms, c'est moi qui me les donne, mais quelquefois je n'ose pas les donner dans la mesure où c'est un peu prétentieux, etc., où ça peut paraître l'être. Pour moi, ceci me fait penser à Venise, parce que ça me rappelle ces tableaux de Guardi, avec des personnages, avec des ciels. Bon, à dire comme ça, c'est ridicule, ou du moins ça peut paraître. Mais une fois mise dans l'ensemble, ça grandit, comme ça, morceau par morceau, et je crois que maintenant, j'y touche plus. Dans la mesure où ceci, c'est l'histoire de l'eau, du ciel, du cadre, et puis de la mer, et puis surtout, disons, de l'engloutissement, en quelque sorte. Une ville qui peu à peu disparaît sous l'eau, ou du moins est prise dans les... Ça fesse, descend, enfin bon, c'est comme ça qu'on peut l'apprendre. Mais en réalité, je pense que c'est simplement une figure sur laquelle on peut rêver.
Vous avez une jolie formule là sur votre sculpture. Vous dites qu'aucune des pièces sorties de mes mains, avez-vous dit, n'est née d'une idée.
Ah oui, si ça vient d'un ami dont le nom vous est peut-être connu, Signori. Je l'ai connu aux Arts Déco, il a été professeur. Et j'avais de bonnes relations avec lui, je les ai toujours, mais je ne le vois plus. Je ne sais pas trop s'il est devenu, je pense qu'il travaille toujours. Un jour, je l'ai entendu parler devant des jeunes. Grosso modo, si je ne trahis pas trop brutalement, en sculpture, il faut partir d'une idée. Ça m'avait beaucoup frappé. Et je m'étais dit, c'est exactement le contraire de ce que je pense. Alors, je n'avais pas discuté là-dessus, je ne me souviens pas en tout cas. Je ne suis pas non plus d'ailleurs un débatteur, si vous voulez, au point de vue concept, faire des discours. Ma formation est plutôt, disons, poétique, mais elle n'est pas philosophique, enfin, grosso modo. Alors, l'idée, bon, peut-être on peut s'entendre là-dessus, parce que je suis en train de penser à ce que je vais raconter, dire au sujet de Pierre-Édouard. Vous connaissez Pierre-Édouard, qui vient d'être élu
à
il y a un an à peu près, et qui va être reçu maintenant, je crois que c'est au mois de mars.
C'est vous qui allez faire le discours de réception ?
Il a été, me rappelle-t-il, c'est vrai, d'une certaine manière, il a été mon élève, quelque temps aux Arts Déco. Et j'avais très vite repéré ce garçon, dont je connaissais d'ailleurs le père, qui est un peintre. Bon, un peu, je connaissais assez peu, mais enfin. Mais ce jeune Pierre-Édouard, c'est tout ça dans les années 80. J'avais repéré comme étant un très bon dessinateur et graveur de surcroît, et par la suite peintre. Mais alors, comme il m'a demandé de présenter, je suis bien obligé tout de même de penser un peu à tout ce qu'il fait, à la sculpture et au reste. Et à propos de l'idée en question, alors, d'une certaine manière, lui pense aussi à l'idée, enfin à un concept. Ou plutôt, il est contre les concepts. Il n'a pas d'idée de concept à proprement parler au sujet de sculpture, mais parce que ça vient autrement. Ça vient, on pourrait dire, de manière organique. Organique, c'est-à-dire par la forme. Et c'est une aventure. Il ne sait pas très bien où il va, mais il le pressent, il le devine. Là, je suis tout à fait d'accord.
Permettez-moi de revenir sur les stèles, parce qu'effectivement, c'est un petit peu une façon pour le public de vous identifier, ces sculptures. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette composition ?
C'est par la forme que ça a été fait, comme ceci aussi d'ailleurs. Mais après, j'ai cru découvrir, en quelque sorte, ça avait pris un sens, bon, à partir de la vague. Bon, c'est ridicule, on ne peut pas sculpter une vague, ça n'a pas de sens. Mais on peut en faire un signe, quand même, de quelque chose. Et tel qu'on peut le percevoir là, il y a, si on veut, le signe d'une vague, mais qui est également comme heurtant un rempart, un objet, une côte, si vous voulez, qui se brise d'ailleurs, qui déporte en quelque sorte, à cause de sa force, une espèce d'axe sur laquelle elle est percée. C'est comme ça que je l'ai senti, mais après coup. Parce que j'avais les éléments, j'avais la forme en question du haut, existait, enfin, je l'avais faite, c'était autrement présenté, mais j'avais gardé ça en tout cas. Et puis je l'avais mis là-dessus, ça me paraissait intéressant, le rapport, ce mouvement par rapport à l'opposition d'axe. C'est né comme ça, bon, c'est tout. La vague, pourquoi ? Eh bien si, certainement, il y a une raison, c'est que j'ai eu affaire avec une amie qui m'a demandé de travailler avec elle. Et on a toujours beaucoup travaillé ensemble, d'ailleurs.
Claude-Marie.
Claude-Marie, vous la connaissez ?
Non.
Oui, mais... Alors, elle vit, elle est toujours là. Elle est un peu plus jeune que moi, mais enfin, elle commence à avoir des problèmes de santé assez graves. Elle ne travaille pratiquement plus, ou du moins très peu. Elle dessine, elle peint. Enfin. Quoi qu'il en soit, on a fait ensemble, entre autres choses, il était question d'une sculpture qui, pour ne rien vous cacher, c'était extraordinaire d'y penser, de voir une occasion extraordinaire de faire quelque chose. Il s'agissait du barrage de la Rance. C'était une usine marémotrice à partir d'un barrage établi à l'embouchure de la Rance. C'est-à-dire, la Rance, à un certain moment, devant Dinard ou Saint-Malo, devant le large, en quelque sorte. Et d'où pas mal de maquettes, d'études qui ont été faites, mais qui...
C'était une sculpture qui était destinée
à... Alors, il était destiné, c'était justement, on a eu beaucoup de problèmes, je n'insisterai pas là-dessus, ça a tourné court, ça n'a pas eu de suite. Pour autant, ça m'a beaucoup frappé, pas mal de choses, c'était d'ailleurs l'histoire de cette sculpture, c'était ouais. Une vague en somme. N'en est pas moins resté très tenace, et ça reste toujours comme quelque chose d'obsédant. Et au fond, la plupart de ces stèles, je les vois un peu comme se souvenant de la puissance de l'eau. Même ceci, par exemple, c'est un peu différent dans la mesure où il y a eu aussi, pour une église, des projets de pupitres, dans ce qu'on appelle un embon, enfin bon, qui ont tourné court aussi pour des raisons d'argent qu'il n'y avait pas, mais enfin qui n'en ont pas moins remué l'esprit beaucoup et qui continuent encore, tôt ou tard, à m'obséder comme ça. Alors, l'histoire du pupitre, si on veut, mais pourquoi pas, c'est le rouleau, en fait. C'est le rouleau, vous savez, le rouleau même de la
Bible.
Mais je vois ça transcender quand même et sur un plan tout simplement de la force de l'eau.
Celle-là s'appelle
Le coureur. Et elle serait évidemment faite pour être fondue en bronze, ce qui n'est pas
elle
le
n'a
cas.
Jamais été fondue. Non. Jamais, jamais.
Ça, voilà une chose un peu de la même famille, si on veut, qui est née aussi d'un morceau de bois, entre autres, qui était là. Bon, c'est une sculpture différente, mais ça, c'est une épreuve en bronze.
Ah non, il y a un tout petit bronze. Bah, le samouraï, alors réduit à quelques centimètres.
Exactement.
Au pied du coureur, dans cet univers de blanc, là.
En principe, chaque sculpture doit pouvoir être, je l'espère, suffisante en elle-même, toute seule, mais peut-être prendre davantage d'intérêt encore en groupe.
Le bois vous inspire beaucoup
aussi ? Le bois.
Parce que j'avais c'est
été
vrai
très
que
frappé par ce que Germaine Richier avait fait avec des morceaux. De morceaux de bois. Oui.
Vous pourriez me parler un petit peu de Germaine Richier,
ah
vous
ben
l'avez connue.
Je l'ai connue, j'ai eu la chance
c'est
de
quand
la connaître.
Même...
Elle a eu une exposition chez Might, qui a beaucoup frappé à l'époque. Ça devait être dans les 47, par là. Et je ne la connaissais pas, sinon par ses œuvres, par ce que j'ai vu là d'abord. Mais par la suite, j'ai eu l'occasion tout de même de la rencontrer. J'avais un ami qui m'a permis de la rencontrer, j'ai été la voir chez elle, etc. Et puis, il y a eu l'épisode Claude Marie. Un beau jour, c'était des amis, un sculpteur, un ami en particulier m'a parlé d'une jeune femme qui venait d'avoir le prix Blumenthal, qui était à l'époque un prix important, une certaine valeur, et puis qui n'était pas donné comme ça à n'importe qui. C'était cette jeune Claude Marie, que je ne connaissais pas, mais qui, à cette occasion, avait exposé rue Saint-Benoît quelques ouvrages d'elle, qui n'étaient pas inspirés, mais marqués, si on veut, par Germaine Richier, mais qui avaient quand même un caractère assez personnel. Et les années qui ont suivi ont fait que j'ai fini par la rencontrer. Et d'ailleurs, elle a eu un atelier à côté du mien, rue Bardvinet, et puis on a travaillé ensemble, etc.
Mais par rapport alors à Germaine Richier.
Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était son élève. En fait, préférée, si on peut dire. Elle a eu des élèves, d'abord en Suisse, parce qu'elle a épousé un sculpteur suisse avant la guerre, ou juste en 40, ce qui lui a valu de passer une partie de l'occupation à Genève, ou en tout cas en Suisse, et de travailler avec ce Banninger, un bon sculpteur suisse, très sage, très sûr. Claude Marie, pour en revenir à elle, est très tôt devenue non seulement son élève, mais son assistante, au point que Germaine Richier, dont la santé s'est malheureusement vite détériorée, elle est morte à 58 ans, je crois, c'est très jeune, lui a confié du travail. Elle disait, ben voilà, tu vois là une petite sculpture, tu l'agrandis. Parce que ça s'agrandit aussi autrement qu'avec des machines. Il y a toutes sortes de systèmes. Mais il fallait avoir confiance. Et elle a fait comme ça certains travaux admirablement exécutés, ben, sous le contrôle de Germaine Richier.
Comment vous considériez la sculpture de Germaine Richier? Vous l'appréciez?
Moi, j'ai été très frappé par les premières sculptures que j'ai vues. Pour moi, il y a un chef-d'œuvre absolument. Il y a l'orage. C'est une de ses sculptures les plus importantes du point de vue grandeur, parce que c'est une sorte de personnage, d'homme, qui d'ailleurs représente l'orage, comme on pourrait dire qu'une sculpture représente l'océan aussi. Enfin, c'est pas pour rien qu'on dit ça, il faut l'avoir. C'est un personnage, d'ailleurs, qui vient d'un modèle qui a existé, que j'ai même jadis rencontré une fois au moins, le fameux Nardone, d'origine italienne, qui a posé pour Germaine Richier, il a même posé pour Rodin. Par la suite, il a posé pour Germaine Richier, en particulier pour son orage. C'est un personnage extraordinaire, il est comme foudroyé. Si on l'a vu une fois, on s'en souvient. Je trouve ça admirable, et c'est une des plus belles sculptures des années 70, 80, même un peu antérieure. Alors oui, le fait de rencontrer Claude Marie, ça m'avait en quelque sorte relié un peu à Germaine Richier, que j'ai rencontré dans le Midi à la fin de sa vie, mais qui malheureusement ne travaillait presque plus.
Mais il y a un catalogue de vos œuvres?
Alors, non.
Parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe.
Oui. Il faut être d'abord moi le premier que je m'en occupe aussi. J'ai une de mes filles qui a entrepris un grand travail il y a déjà pas mal de temps, à partir de choses anciennes surtout. Et puis j'ai été occupé, il aurait fallu que je m'en occupe moi-même et j'avais préféré travailler.
La création vous appelait.
Alors oui, par exemple, ça ce sont les urnes, voilà encore des stèles si on veut. Oui, alors tout ce qui est là, ce sont des maquettes de médailles.
Voilà. Et oui, oh là là, mais il y en a combien là?
Oui, mais alors attention, dans une médaille c'est deux côtés, deux faces.
Oui, mais même, vous en avez réalisé beaucoup.
D'autre part, beaucoup de médailles, quand pour en faire une, ben, je fais au moins deux ou trois variantes.
Il y en a quoi, une vingtaine?
Une dizaine.
Une dizaine,
oui. Et puis, bon, là, ce sont des visages, des portraits.
Bas-relief, un peu.
Enfin, alors, je ne sais
pas
voilà.
Comment dire.
Alors, chose curieuse, vous voyez, c'est que avant même de faire mon coureur...
Tiens.
Mon
ouais,
coureur...
Parce que là, on est devant un... Comment?
J'ai fait... Ça rappelle déjà, ça annonce un peu ce coureur.
Oui, tout à fait. Oui.
J'ai fait ça bien avant.
Bien avant de penser un jour que vous passeriez à la sculpture de ce coureur. Vous voulez qu'on monte, monsieur Lanvin?
Eh bien, je vous précède ou pas. D'accord. C'est comme, ou alors vous y allez, carrément. Vous faites attention à votre tête, quand même.
D'accord. Alors, je vais prendre le micro le temps d'arriver juste en haut.
Ça va?
Oui, ça y est, je suis passée. Oh là là!
Pas très longtemps, c'est cette sphère. J'ai chez moi une version de la même chose en bronze. Il existe deux bronzes de ça, mais ça a été d'ailleurs une expédition très compliquée à faire, en bronze, à couler, parce qu'il fallait couper, rassembler tout ça, parce qu'il se passe un tas de choses à l'intérieur.
Et oui, alors là, à l'intérieur de cette sphère qui est ouverte par endroits, pas partout, j'allais dire les fracturés,
si
vous
voulez,
en parleriez mieux que moi.
Oui, j'ai procédé, si vous voulez, c'est à partir de ceci, de cela, c'est-à-dire d'éléments que j'avais et qui se sont d'eux-mêmes, pas exclus, mais appelés en quelque sorte. Ça a fini par constituer une sorte de map-monde. Et voilà comment ça s'est fait. Je n'ai pas eu l'idée de faire une map-monde. Pour autant, il est vrai, depuis longtemps, j'avais la monde ancienne que j'ai toujours, donc j'avais sous les yeux tout le temps. J'aime l'idée de la sphère.
Alors là, il y a encore des médailles par terre. J'ai essayé de mettre quelque part mes deux pieds. Là.
C'est un creux, vous voyez. Oui, ben c'est pas fameux, ça, on ne voit rien. C'est le creux.
C'est, ah si, non,
c'est curieux d'ailleurs. Ouais. C'est le creux. Terborg, c'est un peintre hollandais du XVIIe siècle. Début des années 60, il y a eu une période de deux, au moins deux, sinon trois ans, où la coupole a été fermée.
Oui, pour travaux.
Fermée au public et même aux réceptions, à cause de gros travaux. On n'avait pas fait de tels travaux depuis un siècle, enfin depuis le début du romantisme. Et tout ce qui était là, ou pas tout, mais une bonne partie, était foutu en l'air. Il y avait un architecte qui en était à l'époque, c'était le purisme, on voulait tout faire nu, très plus nu possible, mais garder quand même évidemment l'essentiel. Il y avait quand même pas mal de morceaux qu'il fallait, là encore, changer, mais des séries de ce qu'on appelle des modillons qui se multiplient à l'intérieur, c'est sous la coupole même.
Parce que l'aménagement de la coupole tel qu'on le voit aujourd'hui date de ces aménagements-là.
Le côté positif des travaux, à mon avis, c'était qu'on a mis en valeur la coupole d'abord, qui était masqué pour des raisons de chauffage.
Autrefois par un deuxième plafond en bois.
On voyait plus la coupole. D'autre part, il y avait, pour des raisons sans doute de sécurité qui n'étaient plus du tout aux normes, on recevait deux fois plus de monde qu'on aurait dû. Donc on a supprimé de faux plafonds, des choses comme ça qui étaient dans les bas-côtés.
Un peu comme un théâtre. C'était peut-être un peu
et
comme ça.
Alors, un beau jour, j'étais là. Et je savais que tôt ou tard, on allait enlever les fauteuils. Et un beau jour, c'est exact, je vois s'empiler les vieux fauteuils, ceux sur lesquels Victor Hugo s'était assis. Enfin, c'était quand même incroyable. Alors je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oh, bon, on les fout en l'air. Alors j'avais une envie folle, c'était d'en piquer un.
Vous l'avez fait?
Alors je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, hélas. Mais ça a été une bonne occasion par la suite d'obtenir un fauteuil autrement. Et j'aurais jamais imaginé que je reviendrais comme ça un jour-là.
Comment ils étaient, ces fauteuils, alors?
Alors, ils étaient rembourrés de tissus, d'une sorte de cresson assez... C'était très ancien, très vieux, c'était verdâtre, c'était pas... Beaucoup étaient en très mauvais état.
Ils avaient une armature en bois, ils étaient chacun différent.
Non, une armature en métal.
Comment c'était? C'était du métal.
Et puis, on aurait dit... Des vieux fauteuils de train, vous savez, des trains d'avant-guerre, la troisième classe, ou première classe peut-être, mais enfin, mal rembourrés, d'une part. Et d'autre part, les nouveaux qu'on a apportés, c'était du genre fauteuil confortable. Enfin, relativement, ça pouvait paraître beaucoup plus confortable, c'était vrai aussi. Et malgré tout, en principe, on devait pouvoir s'asseoir de façon plus confortable, c'est-à-dire ne pas avoir les genoux
collés au siège précédent.
On a quand même fait en sorte que la place mesurée, on est quand même assez mal assis finalement, non pas dans le fauteuil lui-même, mais à cause des genoux. Alors voilà, c'est vrai que ça a été une aventure qui m'a amusé. Sur place, on a retransporté le tombeau de Mazarin qui était au Louvre depuis la Révolution. On avait réussi à le sauver. Bon, il était au Louvre parce qu'il aurait pu disparaître. Et on savait qu'à l'origine, pendant...
Un grand cénotaphe fait par trois grands sculpteurs.
Pendant tout le XVIIIe siècle, à partir du XVIIe jusqu'à la Révolution, Mazarin avait son tombeau là. Là où, d'ailleurs, on l'a remis, là où il est. Vous voyez le...
Oui, bien sûr, sous la coupole.
Or, c'est une magnifique chose de Coysevox, si vous
voulez. Coysevox, Hongre.
Et puis, en marbre, et puis un cénotaphe en marbre, une sculpture de Mazarin en marbre au-dessus, et puis au moins trois, sinon quatre figures en bronze. Il y en a trois, oui. La justice, la sagesse, ou je ne sais quoi encore, qui en représentent des allégories.
Voilà, la prudence, il y a l'abondance et la fidélité.
Et ici, ce sont de très belles choses, presque trop bien faites, ciselées à merveille, à la façon du XVIIe. Et on savait, par un petit crobat de rien du tout, l'architecte un jour nous montre ça, Alors, vous voyez, on sait par une gravure d'époque qu'il y avait là, dans le tombeau, et derrière, on sait qu'au-dessus, mais intégré au mur, il y avait une guirlande qui venait coiffer de part en part une espèce de grand panneau où était inscrit le nom de Mazarin et autres. Et tout ça était surmonté d'une tête de mort.
Et ça, vous l'avez réalisé, en fait ?
Oui. Alors, cette tête de mort était-elle que...
Moi, je croyais que c'était d'époque.
Alors, non, parce qu'il fallait refaire ça. Alors, une fin de ça, ça avait été détruit.
Oui, oui, d'accord.
Alors, on va refaire la tête de mort. Moi, j'avais une tête de mort. Je l'ai toujours.
Oui, elle est dans votre atelier, oui. Ici. C'est celle qui vous a servi de...
Elle m'a servi pour reproduire la tête de mort, mais oui. Qui était même plus grande. Hein.
Voilà le crâne.
C'est pas du tout que je manque de respect pour ce crâne. Je n'ai jamais su qui c'était. Absolument anonyme. Mais malheureusement, ça ne colle pas très bien. C'est pas le même.
C'est pas le même pour la mâchoire.
Mais ça pouvait tout de même servir. D'ailleurs, il est un peu couvert de poussière.
Oui,
ça,
il ressemble presque au...
Ça lui va bien, la poussière, non ? Dans les vanités, on peut utiliser un crâne, pourquoi pas. Et un de mes amis, Babin, qui était un bon sculpteur, mort maintenant, mais qui travaillait aussi avec moi à l'époque sur place, on a été au musée des monuments français pour voir un peu comment le XVIIe siècle faisait des guirlandes. Parce que si on ne fait pas une guirlande comme ça, surtout pour l'Institut, pour Coachvox, surprendre deux fois, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et il y avait une magnifique feuille de laurier venant de Toulon, reproduite donc au musée des arts français, qui permettait de voir un peu comment c'était traité, si vous voulez. Alors on a fait ça de notre mieux. Finalement, je ne suis pas si mal fait. On croit que c'est de l'origine. Pas du tout, ça. La chance, en l'occurrence, qu'il y a eu d'avoir travaillé là, c'est que Babin et moi, on avait lui plus que moi. Il avait plus de technique, il travaillait mieux à la pierre. Mais quand même, on avait ce sens même... des artistes, si vous voulez. C'était pas de simples...
C'était pas de la restauration.
C'était pas la restauration simple. Faite par des gens qui travaillent très bien, mais ne sentent pas la différence dans un 18e ou un 17e. Or, c'est pas pareil. Hein. J'ai vu ça de près. À l'Assemblée nationale, où nous avons beaucoup travaillé aussi, c'est un beau palais, il y a une cour magnifique, il y a aussi l'hôtel de Lassé. Bon, bah, quand vous voyez le 18e, des guirlandes, ne serait-ce que des chapiteaux, un beau chapiteau du 18e, vu de près, est une merveille d'élégance. L'idée du chapiteau est formidable, mais ça vient de l'Antiquité, ça c'est gréco-romain. C'est avec des variantes, mais quand même. Alors, le 18e, il met son grain de sel. C'est-à-dire que le 17e, d'abord, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir de près aussi ailleurs, le 17e, c'est plus austère, plus pur, mais plus violent, plus vigoureux. Mais ça a beaucoup d'allure quand même. En revanche, quand vous voyez un chapiteau comme ceux de la Bourse, vous voyez ça de près, c'est admirablement exécuté. Parce qu'ils avaient un métier terrible. Mais c'est pompier, c'est un côté Philippa, Louis-Philippa, enfin, tout ce qu'on voudra. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Alors... Là, ça a été pour moi l'occasion de revenir à la pierre. Donc, j'ai bien fallu que je m'y mette, quand même, enfin, que je m'y remette. Donc, par la force des choses, je me suis remis à travailler la pierre, beaucoup, enfin, sur les chantiers, que ce soit par la suite aussi bien en Normandie pour des dommages de guerre ou autre. Mais bon, ça ne pouvait pas durer, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Et n'empêche que malgré tout, je ne me vois pas maintenant me remettre à ça, la pierre.
C'est le plâtre.
Alors, justement, le plâtre, ça se taille aussi, le plâtre. Mais c'est pas pareil, c'est autre chose.
En tout cas, Monsieur Lanvin, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre atelier.